Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
50 ans après les émeutes de Stonewall, que doit le monde aux militants LGBT à deux jours de la Gay Pride? Nous sommes en compagnie d'Éric Fassin. Bonjour, vous êtes sociologue, professeur à l'université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, département de sciences politiques et département d'études de genre. On vous doit notamment le populisme, le grand ressentiment publié aux éditions Textuel, peut-être nous rappeler ce qu'ont été ces émeutes de Stonewall, Éric Fassin.
Bonjour. Eh bien, d'abord, ce qui est frappant, c'est que un événement apparemment marginal soit devenu un mythe fondateur pour le mouvement LGBT. Une nuit, c'est-à-dire la nuit du 28 juin 1969, on a ce qui est habituel, un raid de la police dans un bar dans le village à New York. C'est un bar miteux qui est tenu par la mafia parce que à l'époque, eh bien, l'homosexualité n'a pas droit de cité. Par exemple, les hommes n'ont pas le droit de danser ensemble, ils n'ont pas le droit de se toucher, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce bar? La même chose que d'habitude, sauf que là, les clients n'acceptent pas. N'accepte pas les brutalités, n'accepte pas les humiliations. Et il se trouve que ses clients, c'est un peu n'importe qui, si l'on peut dire. C'est-à-dire que c'est pas du tout la bourgeoisie. C'est plutôt, tous les laissés pour compte de l'homosexualité respectable. Ça peut vouloir dire en termes raciaux, c'est-à-dire que il y a des noirs, il y a des hispaniques et il y a des blancs. Mais ça veut dire aussi en termes de classe, c'est-à-dire que c'est vraiment très populaire. Et en particulier parce que, c'est un bar miteux, donc où il n'y a même pas l'eau courante pour laver les verres. Et enfin, ce sont des laissés pour compte dans la mesure où ce ne sont pas les gens présentables. C'est-à-dire que c'est pas du tout ce qui s'était joué dans les années 50 autour des mouvements homophiles comme la société Matachine, c'est-à-dire une vision très présentable, très respectable de l'homosexualité. Là, ça peut être des travestis, ça peut être des lesbiennes butch, ça peut être des personnes trans, ça peut être des travailleurs, travailleuses du sexe. Bref, c'est pas des gens présentables. Et simplement, ils vont plus accepter. Et les violences pendant la nuit, elles vont durer pendant plusieurs jours et ça va être une sorte de prise de conscience que, au fond, les homosexuels ne sont pas obligés de subir, qu'ils peuvent aussi réagir, qu'ils peuvent aussi se battre et que, après tout, s'il y a déjà eu un mouvement des droits civiques, s'il y a déjà eu un mouvement des femmes, il peut très bien y avoir aussi un mouvement de libération des homosexuels.
Comment s'inscrit-il dans un contexte plus général aux États-Unis de lutte pour les droits civiques, Éric Fassin ?
Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on pense au mouvement noir, donc au mouvement des droits civiques, eh bien, on laisse de côté l'homosexualité, même si il y a une figure comme James Baldwin qui a joué un rôle très important.
Rappelez-nous
James Baldwin, qui est un écrivain et qui va, par exemple, qui est au centre du film I Am Not Your Negro, je ne suis pas votre nègre. Ce film de Raoul Peck rappelait la centralité de James Baldwin à côté de Martin Luther King, à côté de Malcolm X, etc. Ce critique de l'oppression raciale, eh bien, il était par ailleurs homosexuel et ouvertement, et tout le monde le savait. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'articulation entre le mouvement homosexuel et d'autres mouvements, c'est toujours un enjeu. Est-ce que, en quelque sorte, on considère qu'il y a une seule vraie question, par exemple, la question raciale, et qu'à ce moment-là, parler d'homosexualité, c'est distraire des vrais enjeux? Ou bien, est-ce qu'on considère qu'il faut articuler, faire des liens entre les différentes questions de domination? La question se pose pour le mouvement noir, mais elle se pose aussi pour le mouvement homosexuel. Est-ce que le mouvement homosexuel doit parler seulement d'homosexualité, ou bien est-ce qu'il peut parler, par exemple, d'immigration?
Mais dans les deux cas, il s'agit de réclamer des droits, notamment le droit à l'égalité, Éric Fassin.
Tout à fait. C'est d'abord l'égalité. C'est aussi en même temps la liberté, tout simplement, c'est-à-dire la liberté de vivre sa vie. Et c'est pas seulement des droits au sens juridique, parce que ça touche aux normes. En fait, si on dit « laissez-nous vivre », eh bien, ça veut dire « laisser les gens vivre, quelle que soit leur manière de vivre, pour peu que, bien sûr, ils respectent les lois, etc. » Mais ça veut dire qu'il n'y a pas une norme, il n'y a pas une manière de vivre. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une manière de vivre qui serait la manière hétérosexuelle, mais à l'intérieur même de ce qu'on peut appeler de manière un peu problématique la communauté LGBT, bah, il y a différentes manières de vivre. Et à nouveau, et encore aujourd'hui, c'est ça la question, est-ce que tout le monde est présentable ou pas? Ou bien est-ce qu'il doit y avoir aussi une norme au sein même de la communauté LGBT?
Mais ce qui veut dire que finalement, cette histoire, alors qu'on peut raconter en expliquant qu'il y avait finalement des luttes de classe, des luttes de race et ensuite des luttes d'orientation sexuelle ou en tout cas une revendication pour l'une d'entre elles, elle peut s'inscrire aussi finalement dans une conquête de la modernité qui peut être définie justement comme l'absence de définition du bien. C'est-à-dire que chacun peut mener sa vie comme il l'entend dès lors, comme vous l'avez dit, qu'il ne nuit pas à la vie d'autrui. Et justement, lorsqu'on découvre les lois qui étaient en vigueur à l'époque de Stonewall, donc il y a 50 ans, pas il y a 2000 ans, par exemple, l'obligation de porter 3 vêtements de son sexe, qui est quand même une loi absolument inouïe.
Ben, effectivement, ce qui s'est joué à ce moment-là, c'est la remise en cause de tout un modèle qui était celui de l'après-guerre. Et l'après-guerre, eh bien, c'est le retour à la normale. Les femmes doivent rentrer à la maison. Et donc, il est important d'affirmer un ordre parfaitement séparé entre les sexes. Bien sûr, les hommes et les femmes sont censés être hétérosexuels, habiter ensemble, faire des enfants ensemble, etc. Mais à condition d'avoir des rôles complémentaires, l'homme au travail, la femme à la maison. Donc ça participe pas seulement d'un ordre homophobe, mais d'un ordre sexuel en général et sexiste en particulier, et qui est un ordre social tout simplement. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ces questions d'homosexualité, elles concernent non seulement une minorité, c'est-à-dire les personnes dont la sexualité est jugée déviante, mais ça concerne tout le monde parce que ça touche à la norme. Et l'ordre sexuel, eh ben, c'est l'ordre social.
Oui, mais justement, parce que l'idée qui consiste à dire finalement, la modernité, c'est la liberté pour chacun de vivre comme il l'entend. Alors c'est à la fois quelque chose qui est très discuté aux États-Unis où il y a beaucoup de questions morales qui finalement s'imposent aux autres. Quand on dit par exemple que la question de l'avortement, que la question y compris de l'homosexualité est une question qui n'est pas tranchée. C'est moins vrai en France, on en parlait il y a quelques jours sur cette antenne puisqu'il était question de l'enquête des valeurs qui a été menée en France et en Europe. Et on voit que finalement en France on considère beaucoup plus que la tolérance en matière de mœurs doit prévaloir.
Ben, je crois que, en fait, ce qui vient de se passer, non pas à l'époque de Stonewall, mais depuis, et en particulier avec toutes les batailles autour du mariage homosexuel, du mariage pour tous, du mariage égalitaire, eh bien, c'est plus seulement la tolérance. La tolérance, au fond, c'est considérer que j'aime pas, mais après tout, ils ont bien le droit. La question de la reconnaissance, c'est tout à fait autre chose. Il ne s'agit pas de reconnaître la communauté homosexuelle, mais de reconnaître le fait que il n'y a pas une hiérarchie a priori entre les modes de vie. Et en particulier, c'est ça l'ébranlement de la norme. L'ébranlement de la norme, c'est le fait que aujourd'hui, un certain nombre de gens ont accepté l'idée que il n'y a pas de raison de dire que l'hétérosexualité c'est mieux. On peut être hétérosexuel, on peut être homosexuel, on peut avoir des pratiques sexuelles tout à fait différentes, mais ça n'est pas une valeur en soi. C'est ça qui change. Alors bien entendu, il n'y a pas consensus. Et il y a une réaction très forte. Et je crois qu'aujourd'hui, la différence peut-être avec l'époque de Stonewall, c'est que à l'époque, lorsqu'on est homophobe, eh bien c'est la norme d'être homophobe. Aujourd'hui, c'est un enjeu politique. Il y a une politisation de l'homophobie qui est vraie en France, on l'a vu avec la manif pour tous, mais qui est vraie aussi au Brésil, qui est vraie un peu partout dans le monde.
Pourquoi au Brésil ?
Au Brésil, on sait que le président Jair Bolsonaro, il a été élu pas simplement par sa critique du Parti des travailleurs, mais en jouant sur le sexisme, sur le racisme, de manière très explicite, mais aussi sur l'homophobie. Par exemple, il avait lancé toute une campagne qu'il a fait connaître sur le kit gay. Le kit gay, c'était un peu l'équivalent de ce qu'on a raconté en France en disant que on allait enseigner aux enfants la masturbation à l'école, etc. Il a prospéré politiquement grâce à cette rumeur d'un kit gay qui serait distribué dans les écoles et qui permettrait en quelque sorte de diffuser l'idéologie du genre. Et on voit ici que toutes les campagnes contre le genre, contre les études de genre, contre le gender, comme disent ses adversaires catholiques, évangéliques et autres, eh bien, ce sont des campagnes, entre autres, contre l'homosexualité. C'est une manière de parler de l'ordre des sexes, la place des hommes et des femmes, mais aussi de l'ordre sexuel, la place de l'hétérosexualité et de l'homosexualité.
On va revenir là-dessus, Éric Fassin, mais au-delà de la question donc qui se pose en France, aux États-Unis, au Brésil, il y a une question d'internationalisation aujourd'hui, à la fois de la lutte contre l'homophobie, mais aussi des situations qui sont quand même des situations très diverses en fonction des pays.
Alors je crois qu'effectivement, on ne peut plus seulement parler d'un pays qui serait un pays phare, les États-Unis. Bien sûr, Stonewall, c'est parti de là. Et donc, à certains égards, ça a servi de modèle pour penser la libération homosexuelle dans beaucoup d'autres pays. Dès 1970, on a une marche des fiertés à New York, mais aussi dans d'autres villes des États-Unis, et dès l'année suivante, en France et ailleurs. Donc ça sert de modèle. Mais aujourd'hui, c'est plus seulement les États-Unis, c'est un peu partout. On s'aperçoit, alors ça a été d'abord à l'initiative du Vatican, qui s'est engagé dans cette croisade, mais d'autres mouvements religieux, comme les évangéliques, ont repris cela, mais aussi d'autres mouvements qui ne sont pas religieux du tout, qui sont laïcs, qui reprennent toute cette bataille, c'est-à-dire qu'on a d'un côté une internationalisation du mouvement homosexuel qui va se mêler de ce qui se passe dans d'autres pays. Par exemple, on a eu au début des années 2000 une mobilisation internationale du mouvement gay contre ce qui se passait en Égypte, c'est-à-dire des violences homophobes d'État, avec le Queen Boat qui était l'objet de persécutions. Mais on a en face une, non seulement une internationale gay, mais aussi une internationale homophobe. L'internationale homophobe, aujourd'hui, ce sont des gens qui, dans toutes sortes de pays, utilisent la question sexuelle en général, c'est-à-dire la place des femmes, mais aussi la place de l'homosexualité, qui utilisent donc la question sexuelle, souvent avec le mot « gender » ou le mot « genre » comme drapeau, en quelque sorte, pour défendre un programme politique réactionnaire, c'est-à-dire pour dire « il faut revenir en arrière, il est important d'en finir avec tous ces changements ».
Les pays qui sont les plus en pointe en matière d'homophobie sont aujourd'hui des pays qu'on pourrait classer parmi des théocraties musulmanes ?
Alors, effectivement, il est clair que certains pays qui se revendiquent de la religion en général sont homophobes. Et la religion joue un rôle important, c'est-à-dire que c'est pas simplement la religiosité, c'est que la religion est un langage politique. Aujourd'hui, c'est une manière de penser une opposition entre un monde moderne, avec des droits individuels, et le retour à un monde ancien qui serait fondé sur l'ordre des choses. Donc, de ce point de vue, ça n'est pas une religion, c'est les religions. Mais c'est pas seulement les religions, puisque encore une fois, les religions peuvent servir de langage pour penser toutes les inégalités. Je crois que...
Mais aujourd'hui, malgré tout, sauf erreur de ma part, Éric Fassin, les pays qui sont aujourd'hui les plus durs, je pense par exemple à l'Arabie Saoudite ou à l'Égypte que vous venez d'évoquer, on a affaire à des idéologies d'État qui sont structurées autour de la religion musulmane. Je pense pas qu'il y ait d'autres cas pour d'autres religions.
Encore une fois, le Brésil, avec les évangéliques, est un exemple important. Mais si on regarde aussi ce qui se passe en Russie avec l'Église orthodoxe, ça n'est pas sans importance. Ou bien avec la Pologne pour l'Église catholique, donc ça n'est pas absent. Je crois qu'il ne faudrait pas réduire à l'islam. Et une des raisons pour lesquelles c'est important, à mes yeux, de le souligner, c'est qu'il est très tentant de penser que l'homophobie, c'est les autres. C'est les autres dans d'autres pays, ou bien c'est les autres dans notre société. Et on se représente que ce serait plutôt les banlieues, par exemple. Or, en réalité, qu'est-ce qu'on vient de voir ? On vient de voir une marche des fiertés à Saint-Denis, qui a été animée, entre autres, par des étudiants de mon université, Paris 8. Et cette marche des fiertés, elle est importante parce que elle permet de contredire un discours qui s'était un peu imposé. On avait tout le temps l'impression que, d'un côté, il y avait des gens modernes, émancipés, nous, et que en face de cela, il y avait des gens réactionnaires, homophobes, eux, en termes de classe, en termes raciaux, etc. Or, en fait, ce qu'a dit la marche des fiertés à Saint-Denis, c'est non pas qu'il y aurait une exception des banlieues, que les banlieues seraient un lieu terrible pour les homosexuels, mais que dans les banlieues aussi, il y a de l'homophobie. Donc, il ne s'agit pas d'opposer nous à eux, mais au contraire, de rappeler que l'homophobie, ça continue de traverser nos sociétés parce que c'est un langage politique pour critiquer le monde tel qu'il va.
Mais alors, justement, qu'en est-il selon vous? Parce que vous êtes, par exemple, exprimé, Éric Fassin, sur la peur des musulmans, je vous cite, qui serait emblématique du vote gay en faveur du FN. aujourd'hui donc le Rassemblement national. Que pensez-vous de ces associations qui sont faites ?
Alors effectivement, il y a depuis les années 2000 un courant politique qui a d'abord émergé aux Pays-Bas avec la figure de Pim Fortuyn, qui a ensuite été assassiné et qui revendiquait son homosexualité contre l'islam, contre les musulmans, contre les immigrés. Autrement dit, son argument politique, c'était une sorte de nouveau populisme, un nouveau nationalisme sexuel qui mettait en avant l'idée que nous sommes du côté de l'émancipation, nous les Néerlandais en l'occurrence, et que eux, les musulmans, les immigrés, sont archaïques, sont homophobes, etc. Et la liberté sexuelle devenait la justification pour refuser les musulmans. Il avait eu d'ailleurs des expressions très brutales pour dire que l'islam l'empêchait, et le terme qu'il utilisait était plus violent, de faire l'amour avec des jeunes marocains. Donc ça voulait dire liberté sexuelle contre l'égalité entre les Néerlandais d'origine étrangère et les Néerlandais, entre guillemets, de souche. On voit bien que là, il y a un discours qui va jouer un rôle très important, qu'on appelle l'homonationalisme. L'homonationalisme, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'instrumentalisation de la revendication des droits d'une minorité, en l'occurrence une minorité sexuelle, contre les droits de minorité, en l'occurrence de minorité raciale, de jouer les uns contre les autres. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est remis en cause, par exemple, à Saint-Denis, mais... Par exemple, je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup des batailles politiques aujourd'hui. Est-ce qu'on va accepter l'idée que l'homophobie, c'est les autres ou pas ?
Alors souvent, le distinguo est fait entre les musulmans, qui eux, évidemment, représentent des opinions très diverses, et l'islam, ou en tout cas la manière dont celui-ci est interprété, puisque il y a effectivement de l'homophobie au Brésil, en Pologne et... aussi en Arabie Saoudite, ainsi que dans d'autres pays, hein, je ne vais pas tous les citer, mais là où les homosexuels sont pendus, tués, c'est en Arabie Saoudite, en Tchétchénie, bref, ça n'est pas en Pologne ou au Brésil.
Alors, je crois que, de ce point de vue, c'est pas une question, encore une fois, d'islam, c'est une question d'islam politique.
Oui, d'interprétation.
D'islam politique, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où c'est un discours politique construit. Parce que en pratique, bah, l'islam, comme le catholicisme, comme le reste, ça peut prendre des formes très différentes. Donc en fait, il est très important de ne pas réduire la définition de l'islam à ce qu'en font les théocraties. Parce que sinon, ça veut dire qu'elles ont gagné leur bataille pour la définition de l'islam. Donc je crois que c'est... important de ne pas, en quelque sorte, couper le pied, couper l'herbe sous le pied de ceux qui veulent faire entendre autre chose.
Éric Fassin, sociologue, professeur à l'Université de Paris 8, votre dernier livre porte sur le populisme. Le grand ressentiment aux éditions textuelles, on va continuer à évoquer cette question LGBT et vous serez rejoint dans quelques instants par le philosophe Paul Preciado. Il est 8h sur France Culture. Cela fera 50 ans, jour pour jour, qu'ont éclaté les émeutes de Stonewall. Ces 6 jours d'affrontements au cours desquels une partie de la communauté homosexuelle de New York se révolta contre une énième descente de police dans un des bars qui lui servait alors de refuge, devenu un événement mythique et fondateur pour les combats LGBT. Un événement d'ailleurs que l'on va commémorer lors de la Gay Pride dans 2 jours. Stonewall occupe une place à part entière dans l'imaginaire du militantisme de toutes les minorités. Que doit le monde à ses premiers militants de la cause gay ? Pour en discuter, nous sommes en compagnie d'Éric Fassin, vous êtes sociologue, professeur à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et vous avez notamment publié « Populisme, le grand ressentiment » chez Textuel et nous accueillons un philosophe, Paul Preciado, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également commissaire d'exposition et vous venez de publier un appartement sur Uranus aux éditions Grasset. Votre vision de Stonewall et des émeutes donc liées à cette descente de police dans un bar gay.
Moi, je pense que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est penser à l'élargissement de l'horizon démocratique. C'est-à-dire, en fait, qu'il faut penser que dans les années 50-60, l'homosexualité était pensée en tant que maladie, en tant que crime, mais aussi la transsexualité, aussi les personnes transgenres. Et aussi, en fait, il faut penser aux femmes. C'est-à-dire, en fait, qu'il y avait, de la même manière qu'on parle d'une ségrégation raciale, pas uniquement aux États-Unis, mais aussi, enfin, dans les régimes coloniaux, on peut parler aussi dans les patriarcats et dans les régimes hétéropatriarcales d'une ségrégation du genre et sexuelle. C'est-à-dire que les femmes étaient réduites au domaine domestique et les personnes dissidentes du genre et de la sexualité, c'est-à-dire en fait les minorités sexuelles, mais minorités politiques, pas en nombre uniquement, des dissidents sexuels qui appartenaient pas à ces régimes majoritaires de l'hétérosexualité, n'avaient pas accès à la ville. Et donc je pense qu'est-ce qu'il faut penser, c'est que est-ce qu'on fait quelque part, si est-ce qu'on fait quelque chose qu'on en fait aujourd'hui à Stonewall, c'est cette revendication des droits à la ville pour les minorités sexuelles et de genre, qui vont des femmes jusqu'à toutes les minorités sexuelles aujourd'hui.
Et alors, aujourd'hui, où en est-on dans ce droit à la ville ?
Bah, on est dans une situation, je dirais, complexe, parce que d'une part, effectivement, il y a eu tout un processus des récupérations et d'occupation politique de la ville par les minorités sexuelles et évidemment aussi par les femmes. Mais par contre, en fait, on est face à une nouvelle vague des néo-fascismes ou des, on pourrait dire, en fait, un discours néo-patriarcal qui pense à une nouvelle cartographie de la ville. Et dans ce sens-là, je pense que c'est important à chaque fois, chaque gay pride, mais chaque pride des minorités sexuelles, elle est importante. Parce qu'en fait, c'est encore une fois réclamer les droits à la ville, en fait, pour les minorités sexuelles.
C'est drôle parce que je disais il y a quelques jours, Richard Florida, qui est un urbaniste, sociologue, Didier Fassin, je ne sais pas si cet auteur vous parle, il publie depuis quelque temps des ouvrages qui sont largement commentés aux États-Unis, et notamment l'un de ses livres, The Rise of the Creative Class, l'avènement de la classe créative. Et alors pour Florida, l'intérêt des villes créatives aux États-Unis, c'est justement leur proportion d'homosexuels. C'est la thèse de Florida, et il dit que ce qui confère à ces villes leur dynamisme, par exemple à San Francisco, c'est la présence des homosexuels. Une réaction par rapport à cette thèse, qui est une thèse très largement répandue aux États-Unis parmi les urbanistes, ceux qui pensent les villes, Paul Bepreciado.
Moi, ça me choque en fait qu'on continue à parler comme ça, qu'on parle de l'homosexualité comme si c'était en fait une forme de nature, quelque chose qui existait dans la réalité, qu'on parle effectivement qu'elle est homosexuelle, comme si on parlait vraiment d'une espèce animale. Et moi, je pense par contre effectivement que toutes les minorités sexuelles et de genre, mais aussi les minorités raciales qui ont été opprimées, sont effectivement à la source d'énormément de transformations sociales et politiques. Et dans ce sens-là, évidemment, ont été vraiment un moteur de transformation.
Alors, sur le premier point, pourquoi la notion d'homosexualité employée dans ce registre vous choque, Paul Bepreciado ?
Parce qu'en fait, moi, je pense que, et dans ce sens-là, peut-être c'est intéressant de revenir au mouvement révolutionnaire des années 70, pas uniquement à Stonewall, parce qu'en fait, chaque fois qu'on parle de Stonewall, quelque part, on efface aussi notre propre histoire européenne, l'histoire française aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que Stonewall, il y a aussi les fronts homosexuels d'action révolutionnaire, il y a aussi les gasolines, c'est-à-dire les femmes travesties, les femmes trans, les folles, et il y a aussi les Gwyn Rouge, etc. Donc moi je voudrais en fait qu'on commence à reparler aussi de notre propre histoire et que Stonewall ne sert pas à éclipser cette histoire.
Justement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous LGBT aujourd'hui? Le combat LGBT, comment pourriez-vous le définir?
Encore une fois, en fait, moi, je m'oppose en fait à la segmentation dans ces sortes d'identités. En fait, moi, je pense que justement l'autre jour, je parlais avec quelqu'un, en fait, avec Patrick Cardon, qui me disait bon, il faut peut-être élargir encore ça, et il faut parler, ajouter une F pour les folles. Et la question, c'est que au bout d'un moment, en fait, on va ajouter tellement des nouvelles lettres, en fait, que finalement, je pense que ça va être la totalité des minorités sexuelles. Moi, je pense qu'il faut parler aujourd'hui d'une marche, un mouvement des dissidences sexuelles et pas un mouvement des identités sexuelles.
Éric Fassin, même question, mais peut-être juste sur cette thèse selon laquelle une ville est dynamique s'il y a des homosexuels. Est-ce que ça signifie pas, alors, indépendamment du fait de savoir si celle-ci est fondée, comment elle s'articule, est-ce que ça ne signifie pas finalement un retournement chez beaucoup, non seulement d'intellectuels, mais aussi de responsables politiques aux États-Unis, puisque Florida est beaucoup commentée par des politiques?
Je crois qu'il y a une histoire du lien entre homosexualité et ville, avec l'idée que l'anonymat de la ville est une libération possible pour des gens qui sont rejetés dans leur milieu, dans leur village ou dans leur ville, et qui vont aller dans les grandes villes, les métropoles. Il y a une sorte de fantasme de la ville cosmopolite, qui est aussi une ville anonyme, où on peut être soi-même. L'inconvénient de cette vision des choses, qui est en partie fondée, c'est qu'elle donne une idée unifiée de l'homosexualité. Et là, je vais dans le sens de ce que disait Paul Preciado, c'est-à-dire que ça donne l'impression qu'il y a les homosexuels. Or, qu'est-ce qui s'est passé autour des villes? C'est aussi la gentrification. Et ça, c'est un des enjeux. C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'il puisse y avoir des quartiers gays, ça peut se faire aux dépens de populations, des classes populaires? Ça, c'est un des enjeux aujourd'hui. Parce que, en fait, l'enjeu politique, c'est pas simplement les homosexuels ou les LGBT face aux homophobes, mais c'est aussi des divisions au sein du monde qu'on appellera LGBT ou comme on veut, c'est-à-dire au sein des minorités sexuelles. C'est déjà ce qui se jouait au moment de Stonewall.
C'est-à-dire ceux qui considèrent par exemple que la gay pride est aujourd'hui quelque chose de beaucoup trop majoritaire. Paul B. Preciado.
Oui, mais en fait, je pense qu'il faut penser à notre histoire récente, très très récente, et à l'histoire, et peut-être à notre futur aussi. C'est-à-dire que c'est pour ça que peut-être c'est important de repenser à Stonewall, parce que peut-être on a besoin aujourd'hui de repenser cette politique sexuelle face à cette vague néo-fasciste, néo-patriarcale. La vraie question, en fait, c'est effectivement comment on a distribué dans les villes les différentes minorités sexuelles, raciales et des classes. C'est-à-dire que, par exemple, pourquoi Stonewall est arrivé? Tout simplement parce que les homosexuels, mais aussi les transsexuels, les travestis, les noirs, n'avaient pas les droits de rentrer dans un bar et de se faire servir dans un bar. Donc, les bars, dans ce sens-là, les boîtes sont devenues vraiment des lieux des revendications et des transformations politiques très importantes. Et donc, c'est dans cette démarche, si vous voulez, de commencer à repenser la ville comme un lieu de fabrication de la démocratie.
Bon, mais cette ségrégation géographique, elle ne fonctionne pas plus de la même manière, Éric Fassin, si on songe par exemple à des villes comme San Francisco ou Tel Aviv, il y a une inclusion des gays à l'intérieur de la ville, et puis il y a une relégation des minorités, alors qu'il s'agisse des Arabes israéliens à Tel Aviv, ou des minorités tout court pour San Francisco.
Effectivement, il y a une histoire là qui n'est pas seulement une histoire urbaine, qui est aussi une histoire de classe, qui est aussi une histoire raciale. Le mot pinkwashing, par exemple, eh bien, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire utiliser la question homosexuelle pour, en quelque sorte, balayer sous le tapis des tensions qui peuvent être raciales, etc. Et c'est ça qui se joue depuis quelque temps autour des marches des fiertés. Qu'est-ce qui va se passer à New York samedi? Il va y avoir deux marches. Pourquoi? Parce qu'il y a d'un côté la marche légitime, officielle en quelque sorte, où il y a beaucoup d'argent, où il va y avoir les grandes entreprises, où il va y avoir toutes les institutions, qui est une marche dépolitisée. Et face à cela, il y a une marche organisée par la Reclaim Pride Coalition, c'est-à-dire reprendre face à cette récupération, face à cette évolution mainstream de la marche, reprendre l'initiative, c'est-à-dire repolitiser. Et il se passe la même chose en France. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? L'année dernière, stop le pinkwashing. Des gens ont pris la tête du cortège en disant on en a assez de cette vision dépolitisée de l'homosexualité. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Eh bien, il y a les délaissés des marches des fiertés, les personnes intersexes qui disent mais vous nous oubliez complètement dans toute cette histoire. Donc, on rejoue constamment ce qui s'est joué à l'époque de Stonewall, où il y avait d'un côté une homosexualité légitime, propre sur elle, et face à cela, tous ces gens illégitimes, pas présentables, un peu embarrassants, pour des raisons de classe, pour des raisons raciales ou pour des raisons sexuelles.
C'est votre point de vue également, Paul B. Preciado. Qui sont les infréquentables, ceux qu'Éric Fassin appelle ainsi, pour des raisons sexuelles?
si vous voulez, la question pour moi, c'est pas tellement qui sont les infréquentables. C'est-à-dire, c'est pas à chaque fois, parce que moi, là où je me sens quand même gêné par rapport à la manière dont on parle de la sexualité, c'est qu'on parle des homosexuels, on parle des gays, des quartiers homosexuels, les homosexuels dans la ville, comme si effectivement, encore une fois, quelqu'un était homosexuel et après, il s'est dit, bon, je vais aller dans les marais vu que je suis homosexuel. Et
en fait, à Paris,
par exemple, si on parle de Paris. Mais en fait, les choses sont plus complexes. C'est-à-dire qu'on vit, c'est plutôt penser qu'on vit dans une ville qui est structurée de manière hétéropatriarcale. Tout l'espace était hétéropatriarcal. Et aussi, les institutions sont hétéropatriarcales. Les discours, c'est ça la question. Donc, la question, c'est comment, en tant que dissident de ces régimes politiques, c'est-à-dire penser à la sexualité, ne pas comme une orientation sexuelle. C'est pas la question, en fait, si vous aimez les filles ou pas, ou vous aimez les garçons, ou vous êtes... Non, la question, en fait, c'est vous êtes dissident par rapport à un régime politique. Et je pense qu'il y a le problème, c'est que dans les années 80, 90, on a beaucoup dépolitisé la sexualité et surtout autour de la crise du sida, on a normalisé énormément l'homosexualité et ça contribue aussi à effacer d'autres formes des minorités sexuelles qui aujourd'hui sont de plus en plus présentes.
Ça veut dire que pour vous, il est par exemple absurde de considérer qu'on a une identité en fonction de ses goûts, de ses pratiques intimes ?
Bah, ça veut dire qu'en fait, vos pratiques intimes ne font pas totalement votre identité sexuelle. C'est-à-dire que peut-être vous pouvez avoir certaines pratiques. Qu'est-ce que j'en sais de vos pratiques ? Mais par contre, en fait, ce que je sais, c'est par rapport à votre langage, comment vous parlez de votre sexualité. Qu'est-ce que par exemple, si vous commencez à aller en boîte gay toutes les nuits, je vous jure en fait que peu importe qu'est-ce que vous allez faire là-dedans, mais au bout d'un moment, vous serez gay dans le sens en fait où ça va constituer qui vous êtes socialement et politiquement dans la ville.
Et alors, justement, vous concernant Paul B. Preciado, vous en parlez d'ailleurs dans Un appartement sur Uranus, et les lecteurs de votre chronique dans Libération vous retrouveront, lorsque vous commencez en tant que philosophe féministe et que votre transformation, le fait que aujourd'hui vous avez changé de sexe, est-ce que cela, par exemple, c'est quelque chose qui modifie votre féminisme, qui fait finalement de vous un représentant de cet ordre patriarcal?
Ma position est complexe dans le sens, effectivement, si quelqu'un me voit aujourd'hui peut penser que je suis un homme, ce qu'on appelle
donc
un
on
homme.
On peut vous faire des blagues de vestiaire.
Quelqu'un qui a été assigné homme à la naissance, mais par contre, en fait, moi, je continue, en fait, à me positionner en tant que dissident politique et à parler de la transsexualité comme une position politique dans une société hétéronormative. Donc, voilà, mes positions, je pense qu'elle est assez claire par rapport à ça. L'homosexualité, la transsexualité, c'est-à-dire que, ont été aussi inventés par des discours médicaux et politiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, on parle aussi des genders fluides. On parle aussi, on va voir l'apparition des nouvelles formes des dissidents sexuels et des nouvelles formes des résistants sexuels. Eric parlait tout à l'heure de l'intersexualité. C'est très important parce que je pense dans mon combat de la continuité, si vous voulez, entre les combats féministes, lesbiens et trans aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est la demande qui ont fait plusieurs féministes et plusieurs penseurs queer par lesquels aussi moi je m'inclus, en fait, la mise en question de l'épistémologie de la différence sexuelle comme un régime qui est assigné à la naissance et qui est un régime binaire.
Mais on en parlait tout à l'heure avec Eric Fassin, Paul B. Preciado, est-ce que justement le fait de politiser la question sexuelle n'est pas d'abord le fait de régimes qui sont des régimes hostiles, notamment par exemple l'islam politique qui aujourd'hui instrumentaliste en Arabie Saoudite, en Tchétchénie. Et est-ce que le fait de reprendre ces catégories politiques, ça n'est pas justement reprendre finalement un cadre qui vous est imposé par les ennemis finalement d'un monde libre?
Non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec la position d'Eric là-dessus, c'est-à-dire que il n'y a pas que l'islam, les religions monothéistes dans leur ensemble, on fait partie de l'imposition de ces cadres hétéropatriarcales dans leur ensemble, avec beaucoup de différences, mais en tout cas en fait c'est un cadre aussi qui fonctionne avec d'une part la différence sexuelle et d'autre part effectivement un masculinisme d'État, une forme de normalisation en fait du corps masculin souverain par rapport à tout autre corps. Et je pense qu'on est dans un mouvement très très large des luttes pour la démocratie sexuelle et des genres.
Donc pas uniquement face évidemment à l'islam politique, mais face aussi au catholicisme politique, on pourrait dire, ou face au néo-nationalisme.
Bien sûr, mais je rappelais la gradation qui est quand même inouïe entre l'Arabie Saoudite qui crucifie les homosexuels et la Pologne, où ils peuvent effectivement avoir un certain nombre de questions liées à l'homophobie dominante, mais où malgré tout,
Oui, mais il y a d'autres formes de dissidence. En fait, on pourrait se dire en fait qu'en réalité, ici, on tue personne, mais c'est pas vrai en fait, parce qu'une femme est tuée toutes les semaines en France, justement en tant que féminicide. C'est-à-dire parce qu'elle est femme. Donc on est encore aujourd'hui dans un régime patriarcal que j'appelle nécropolitique, c'est-à-dire qui travaille et qui gouverne avec l'utilisation des techniques de la violence.
Justement, vous parlez de nécropolitique dans l'une de vos chroniques de Libération, et dans cette chronique-là, vous évoquez l'Espagne. Et l'Espagne, à la fois sur fond de guerre civile espagnole, ça c'est l'histoire de votre famille,
oui.
Mais aussi sur le fait qu'on a affaire à une sorte de laboratoire, passez-moi l'expression, le franquisme a été dominant, oui. Et peu de régimes ont incarné comme ça un fascisme si récent. Aujourd'hui, la situation en Espagne est très différente. Votre point de vue sur ce qui se passe ?
Bah moi je pense que en Espagne en fait comme dans plein des pays en fait qui ont passé par un régime fasciste ou une dictature, on est passé en fait dans les années 70 de la dictature au libre marché, et on a pensé en fait que ce processus était un processus de démocratisation, et finalement en fait on n'a pas connu vraiment la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment, je pense, une démocratie très très brève, ou un petit processus de démocratisation, et qu'on commence aujourd'hui à nouveau à réinstaller, à reconnecter en fait la société dans ses lois, dans ses institutions, avec les régimes fascistes. Mais je pense que c'est la même situation dans beaucoup des pays de l'Est, aussi en Argentine, en Chili, c'est-à-dire dans des pays effectivement qui ont servi des laboratoires pour cette transition entre les fascismes ou la dictature et les libres marchés, le néolibéralisme.
Oui, mais d'un côté, en Espagne, alors la question par exemple des femmes et du féminicide a été largement débattue. C'est l'État qui a tenté, qui tente aujourd'hui d'ailleurs de faire passer un certain nombre de mesures, comme en France bien sûr. Là, c'est pas du racisme d'État, ou ce ne sont pas des meurtres d'État comme en Arabie Saoudite.
Ça dépend en fait qu'est-ce qu'on appelle l'État. Mais effectivement, parfois, l'État aussi peut être vraiment dans sa production de discours, dans sa mise en place institutionnelle, peut être complice aussi de cette violence aussi bien patriarcale qu'est homophobe et transphobe.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de confondre ou d'amalgamer l'État et la société ?
Non, parce qu'en fait, on est, c'est-à-dire que, évidemment, la question de l'Arabie Saoudite, si vous voulez, c'est presque caricatural de prendre un exemple comme ça. Et on pourrait dire, c'est comme on disait tout à l'heure, Eric, c'est bien de penser que c'est les autres. Mais la question, c'est, je pense qu'on en parle des violences, machistes ou des violences patriarcales ou hétéropatriarcales. Je pense que c'est une violence institutionnalisée, une violence d'État, une violence coloniale qui est vraiment a été imposée depuis très, très, très longtemps, et que ça va être aussi très difficile de dépatriarcaliser ou de décoloniser.
Éric Fassin.
Je crois que si on veut dire que l'Arabie Saoudite n'est pas l'endroit où les minorités sexuelles ont envie de vivre aujourd'hui, il y aura consensus. Simplement, l'enjeu politique aujourd'hui n'est pas de faire un palmarès.
Ouais.
C'est plutôt de voir dans les sociétés où nous sommes ce qui ne va pas. Par exemple, en Espagne, il y a un procès en cours, une bataille autour d'un viol collectif. Et là, on voit bien que la question du rôle de l'État, c'est-à-dire en l'occurrence de la justice, pour savoir si c'est grave ou pas, si on doit être scandalisé ou pas, ça se joue encore aujourd'hui.
Donc, aussi sur l'avortement aussi.
Voilà. Ouais. Et je pense qu'il est important, de ce point de vue, de profiter de ce moment néo-fasciste pour se rendre compte que aujourd'hui, c'est pas simplement les minorités raciales, sexuelles.
Pourquoi Éric Fassin, un moment néo-fasciste ?
Eh bien, parce que on a des régimes comme au Brésil, comme en Hongrie, qui sont
oui,
en train
vous
de.
Vous ne parliez pas de l'Espagne.
Non, je ne parlais pas de l'Espagne. Pardon. On a un retour, bien sûr, de Vox et de l'extrême droite, et donc d'une nostalgie franquiste. Donc l'extrême droite, elle est partout. Simplement, on est dans un moment néo-fasciste, c'est-à-dire qu'il y a des régimes qui, aujourd'hui, par exemple, comme Bolsonaro au Brésil, se réclament de l'héritage de la dictature. Et ce qui est intéressant, c'est que ça frappe en particulier les minorités raciales et sexuelles. Un des gestes avant-coureurs, en quelque sorte, de ce qui s'est passé au Brésil, c'est l'assassinat de Marielle Franco. C'est-à-dire d'une femme noire, lesbienne, activiste. Et moi, j'allais voir hier soir un film Bichat Travesti qui montre un personnage de folle, en quelque sorte, performeuse, noire, transgenre, et au Brésil. Et on s'aperçoit que là, c'est là que ça se passe aujourd'hui, la politique. Pourquoi ? Parce que ça pose la question de la norme. Parce que sinon, on pourrait se dire, après tout, moi, je ne suis pas une travestie noire brésilienne. Donc, je suis à côté de tous ces problèmes. Sauf que c'est par là que ça passe. Le retour à l'ordre néofasciste, il passe aujourd'hui en particulier par les corps des minorités sexuelles et raciales. Et il ne suffira pas de nous rassurer en nous disant que nous ne vivons pas en Arabie Saoudite.
Oui. Je voulais pas faire de la contre-publicité à l'Arabie Saoudite. Effectivement, c'est un terme qui peut être pratique et utile, mais plus généralement, essayer de hiérarchiser, malgré tout, les atteintes. Bon, moi, ça me paraît évident, mais ensuite, on n'est pas forcément d'accord là-dessus.
Non, moi je voulais dire est-ce que c'est passé à Stonewall en fait, et même avant et après aussi, et même en France autour de front homosexuel d'action révolutionnaire, c'est aussi toute une politisation sociale, des confluences, des luttes, c'est-à-dire des noirs aux États-Unis, des noirs américains, les mouvements pacifistes, les mouvements féministes, et je pense qu'aujourd'hui face à cette mouvance néofasciste, on avait soin d'une nouvelle alliance, une nouvelle confluence des luttes minoritaires, et moi je voudrais bien idéalement, voire justement pas une pride LGBT, mais une pride des minorités somatopolitiques, c'est-à-dire des minorités des corps dissidents, qui sont précisément les corps qui sont la cible de la violence néopatriarcale et hétéropatriarcale et coloniale aujourd'hui en Europe et partout, ça pas simplement en fait au Brésil, mais aussi en fait en Europe.
Et pourquoi pas une lutte pour la reconnaissance, pour l'égalité des droits universalistes, donc ne tenant pas compte, à moins de considérer bien sûr que fait tous partie d'une minorité.
On fait tous partie d'une minorité qui a été, si vous voulez, opprimée par ces régimes hétérocoloniales, patriarcales, parce que vous êtes encore vivant. Donc dans ce sens-là, vous, la planète, les animaux, vous faites partie de cette minorité. Mais par contre, le problème, c'est que quand en France on dit universalisme, en fait, évidemment, on est en train de penser au corps blanc, blanc, masculin, hétérosexuel. Donc je pense qu'il faut justement réclamer des corps différents, des corps dissidents qui ont été l'objet de la violence coloniale et patriarcale.
Éric Fassin.
Je crois que le terme d'universalisme, doit être utilisé de manière plus féconde. C'est-à-dire que, en réalité, lorsque des minorités s'intéressent aux violences que subissent d'autres minorités, ça veut bien dire qu'elles ne sont pas dans une logique identitaire. Lorsque des majoritaires s'intéressent aux problèmes auxquels sont exposées les minorités, eh bien, là aussi, on est dans une logique universaliste. Simplement, partir de la question minoritaire, c'est-à-dire des gens qui subissent des discriminations, qui subissent des violences, c'est une manière de se poser des questions sur la norme. Et ça, ça concerne tout le monde. Et donc, opposer la question minoritaire à la question universaliste me paraît trompeur.
J'ai dit à Paul B. Preciado qu'on finirait en parlant d'amour. Alors, Éric Fassin n'était pas content, parlerez d'amour tout à l'heure, Éric.
Mais ça,
parlez-nous quand même
c'est la politique
d'amour. Il y en a beaucoup dans votre livre. J'aimerais quand même que vous nous disiez quelque chose sur l'amour.
Comme ça, sur l'amour.
Mais je pensais à un texte, mais alors,
parlez-nous
le texte que vous faites sur la Saint-Valentin, mais comme vous dites, Saint-Valentin est une ordure, c'est pas Saint-Valentin qu'on va prier maintenant, mais peut-être quelqu'un d'autre.
Non, pour moi, les problèmes, justement, c'est comment les récits sur l'amour, les discours sur l'amour, les fictions sur l'amour font partie de cette idéologie hétéropatriarcale. Et donc, je pense qu'il faut pas uniquement...
Mais même si on oublie les hétéropatriarcales, avant tout, dans votre livre, il est question de plaisir et d'amour
tout
aussi.
À fait. Les questions de plaisir et d'amour, mais de quel amour et de quel plaisir. Et donc, je pense que, et c'était quelque chose d'assez central dans les années 70, aussi bien à Stonewall, où il y avait aussi, on parle de la révolution, mais la révolution était sexuelle. Les corps, quel plaisir, quel désir, c'était vraiment au centre de cette révolution. Je pense que une question aujourd'hui, pour nous, politiquement, c'est quelle forme d'amour, quelle forme de relation, autour de quelle forme de relation on veut construire cette nouvelle société dépatriarcalisée et décolonisée.
Mais parce
moi, je pense qu'il faut réinventer l'amour. En fait, donc, un amour non hétérocentré, mais aussi non génital, hein, un amour qui n'est pas totalement, si vous voulez, lié à la reproduction sexuelle, un amour qui sort des modèles des couples monogames, etc. Donc, cette révolution aussi, elle est aujourd'hui en course.
Bon, Éric Fassin, vous aussi, vous avez le droit de parler d'amour.
Oh, écoutez, je pense que, en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que l'amour, c'est une question politique. Et que donc, l'idée qu'il y aurait d'un côté la vie privée, de l'autre la vie publique, qu'il y aurait d'un côté les relations amoureuses et de l'autre la vie politique, eh bien, c'est cela qui est remis en cause. Et je trouve que, de ce point de vue, le travail de Paul Preciado nous aide à sortir de ces fausses alternatives.
Bon, il y a de beaux textes d'amour, en tout cas dans Un appartement sur Uranus, votre livre publié chez Grasset, Paul Merci. B. Preciado. Et puis on trouve Populisme, le grand ressentiment chez Textuel, Éric Fassin.